Merci d'être avec nous sur RFI. Il est minuit à Paris.
24 heures en France.
Bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité française. On est ensemble pour la prochaine demi-heure.
Mathis Limano.
La bataille des chiffres en ce 1er mai. Entre 150 000 manifestants selon la police et 300 000 d'après les syndicats. Les organisations en ordre dispersé. La CFDT a fait bande à part. Ce 1er mai a été marqué par la mobilisation à Dunkerque en soutien aux 600 salariés d'ArcelorMittal. À Paris, des heurts ont éclaté, visant notamment des élus socialistes. À suivre, la famille d'Aboubacar Cissé annonce déposer plainte pour terrorisme. Les proches de ce jeune malien tué dans une mosquée s'indignent que le parquet national antiterroriste ne se saisisse pas de l'affaire. L'armateur CMA-CGM signe un accord avec les autorités syriennes pour l'exploitation du port de Latakié. Et puis plus que 3 journées en Ligue 1, qui se qualifiera pour la Ligue des Champions en plus du Paris Saint-Germain ? Réponse le 17 mai.
RFI.
Ils sont 300 000 à avoir défilé partout en France selon la CGT, 2 fois moins selon la police. Des défilés du 1er mai donc partout en France, à Paris, Marseille, Nantes, Lyon. Mais c'est dans le Nord que le coup d'envoi des défilés a été donné. Syndicats, responsables de gauche et simples citoyens se sont donné rendez-vous à Dunkerque. Objectif, défendre les salariés de la sidérurgie ArcelorMittal où 600 emplois sont menacés. Victorien Villaume.
Les drapeaux des syndicats éclairés par un grand soleil et cette banderole « Industrie en danger, Dunkerque résiste ». Philippe Lux, délégué CGT chez Arcelor, a l'impression de revoir toujours le même mauvais film sur l'industrie française.
Mon grand-père était mineur, on a travaillé dans la sidérurgie toute notre vie, on a connu le déclin de la sidérurgie en Lorraine et c'est ce qui va arriver par ici.
On a un savoir-faire et on veut que ça continue, s'inquiète de son côté Jean-Baptiste François, 15 ans d'ancienneté en tant que leader logistique.
Il y a une semaine, on était à 170 emplois supprimés. Aujourd'hui, on est à 300. Comment on sera demain, on ne sait pas. Ce qu'on voudrait, c'est vraiment qu'on soit défendu avec beaucoup plus d'activité au niveau national et surtout au niveau de l'Europe.
Nationalisation. Pour soutenir ArcelorMittal et demander la nationalisation, de nombreux élus de gauche ont fait le déplacement, des écologistes aux insoumis en passant par les socialistes. Olivier Faure, premier secrétaire du PS.
Et notre volonté, c'est effectivement de venir soutenir celles et ceux qui se battent aujourd'hui pour leur emploi. Face à un employeur qui a reçu beaucoup d'aide publique et qui, dans le même temps, licencie.
Deux annonces concrètes de la part de la gauche. La direction d'ArcelorMittal va être convoquée en audience par la commission des affaires économiques et une proposition de loi va être déposée pour que l'État mette sous tutelle l'usine de Dunkerque.
Et vous l'entendiez dans le reportage, Olivier Faure, premier secrétaire du PS. Ce soir, il dénonce des violences contre des militants et élus socialistes dans le cortège parisien, notamment le député Jérôme Guedje, pris à partie. Olivier Faure a annoncé saisir la justice. Un 1er mai en ordre dispersé chez les syndicats cette année. La CFDT a fait bande à part, mais avec le même mot d'ordre du côté de l'intersyndicale CGT, FSU et Solidaires, les retraites, les salaires, mais aussi la solidarité internationale pour les droits des travailleurs. Muriel Guilbert, co-déléguée générale à l'Union syndicale solidaire.
La question des retraites, c'est pas fini. Voilà, c'est un message important et fort. C'est de dire aussi qu'il n'y aura pas de sacrifice en fait de nos droits sociaux à l'effort de guerre. Je pense que ça aussi, c'est le refus de voir en fait tous nos conquis sociaux remis en cause à cause du contexte international. Troisièmement, c'est aussi vraiment l'importance de dire que oui, le mouvement syndical, on se bat pour une paix juste et durable. Non seulement c'est la répression, la remise en cause des libertés quand l'extrême droite arrive au pouvoir, mais c'est aussi la fin des services publics, c'est aussi en fait la remise en cause des droits des travailleurs et des travailleuses, que ce soit sur les systèmes d'aide, les systèmes sociaux, la sécurité sociale. Donc en fait, ces batailles-là, elles sont centrales pour nos démocraties. Je pense que c'est aussi le message qu'on veut faire passer avec ce 1er mai.
La co-déléguée générale à l'Union syndicale solidaire, Muriel Guilbert, avec Anne Verdaguer. Le Rassemblement national, lui, rassemblait ses forces à Narbonne en ce 1er mai. Devant près de 5000 militants, Marine Le Pen a mis en garde contre une confiscation de la démocratie. Et ce, un mois après sa condamnation qui pourrait compromettre sa candidature à l'Élysée, Raphaël Delvolvé.
Comme depuis un mois, Marine Le Pen semble déterminée.
J'ai dû m'engager dans une nouvelle bataille. La possibilité de vous représenter dans 2 ans à la prochaine élection présidentielle.
Fabien, fort de plus de 200 km parcourus jusqu'à Narbonne, est galvanisé.
C'est une sainte, Marine.
Et ne conçoit pas l'absence de sa championne.
C'est impensable qu'elle ne puisse pas se présenter. Parce que Marine, c'est quand même le socle.
Pour le jeune Romain, venu d'encore plus loin, elle a raison de persévérer.
Pourquoi voulez-vous qu'elle laisse tomber ?
Pour lui, comme pour Florence, elle est une meilleure candidate que Jordan Bardella, le possible plan B.
La Marine a l'expérience que Jordan peut-être n'a pas.
Morgane, venue elle faire dédicacer son livre de Jordan Bardella, imagine très bien un renoncement.
Ça ferait du bien d'avoir un autre nom de famille que Le Pen. Je pense que ça aiderait à avoir plus de votants.
Mais pour beaucoup, il n'y a pas non plus urgence. Le procès en appel n'est pas encore passé. Pour Jean-Paul, la chef des députés RN est une stratège.
Marine est suffisamment intelligente pour savoir si elle devra se retirer assez tôt pour ouvrir la porte à Jordan.
La confiance reste donc de mise. Finalement, c'est Pauline qui résume assez bien la vie le plus partagé par les militants de Narbonne.
L'essentiel pour nous, c'est que le RN passe.
En somme, qu'importe le candidat, pourvu qu'ils aient leurs idées au pouvoir.
La grandeur de la France est encore devant nous.
Raphaël Delvolvé, service politique de RFI.
24 heures en France.
Un millier de personnes rassemblées ce jeudi, place de la République à Paris, en hommage à Aboubacar Cissé, ce Malien de 22 ans tué de plusieurs coups de couteau alors qu'il priait dans une mosquée du Gard. La justice française a ouvert une information judiciaire pour meurtre avec préméditation et à raison de la race ou de la religion. Mais le parquet national antiterroriste ne s'est pas saisi du dossier pour l'heure, un choix que ne comprend pas la famille d'Aboubacar Cissé. Elle va d'ailleurs déposer plainte ce vendredi pour acte de terrorisme. Yacine Bouzrou, l'un des avocats de la famille.
Je n'ai pas vu, moi, de dossier récent où le caractère terroriste est aussi évident. Il y avait une intention de créer la terreur et de faire peur aux gens, et c'est la raison pour laquelle il a filmé son acte et l'a diffusé en direct sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on appelle une revendication. Si ça avait eu lieu dans un autre lieu de culte, dans n'importe quel autre endroit, le caractère terroriste aurait été retenu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la loi. Et donc là, le parquet national estime que ce n'est pas le cas. En d'autres termes, le parquet national antiterroriste considère que des fidèles dans une mosquée ou qu'une mosquée ne peut pas être victime d'un acte de terrorisme. Juste pour information, la dernière fois que la justice antiterroriste a été saisie, c'était la semaine dernière pour des incendies de véhicules devant des prisons. Donc on a aujourd'hui un parquet national antiterroriste qui ne respecte pas le droit et qui choisit ses victimes selon des critères politiques ou des critères dus à certaines religions, et c'est pas normal. C'est pour ça que nous saisissons un juge d'instruction indépendant afin que celui-ci se prononce sur le caractère terroriste.
Arrêté en Italie, le meurtrier d'Aboubacar Cissé continue de nier avoir agi par haine de l'islam. Il pourrait être remis à la France à la mi-mai, selon son avocat italien. Contrat d'exploitation signé entre l'armateur marseillais CMA-CGM et la Syrie. Exploitation du terminal à conteneurs du port de Latakié, le principal port de commerce syrien. Les discussions entre le groupe français et les autorités syriennes ont été révélées en février dernier, mais depuis, rien n'avait filtré sur ces négociations jusqu'à ce 1er mai. Agnieszka Kumor.
Le groupe contrôlé par le milliardaire franco-libanais Rodolphe Saadé, dont le grand-père paternel est lui-même né à Latakié, s'engage à moderniser le port, à l'agrandir et à approfondir le bassin. L'objectif est de pouvoir accueillir de gros navires afin d'augmenter le flux de marchandises à destination du pays ravagé par plus de 10 années de guerre. Les autorités du port précisent qu'il s'agit du premier contrat d'investissement avec une entreprise internationale depuis la chute du régime d'Assad. CMA-CGM, qui exploite le terminal à conteneurs de Latakié depuis 2009, a jusque-là renouvelé son contrat pour de courtes périodes. Mais avec cet accord, il va pour la première fois s'engager pour 30 ans. Au total, 230 millions d'euros d'investissement sont prévus, avec notamment la construction d'un nouveau quai aux normes internationales. Quant aux revenus d'exploitation, ils devraient être partagés à hauteur de 60% pour l'État syrien et de 40% pour le groupe français.
Économie toujours, le marché automobile français continue de tirer la langue. Les immatriculations de voitures neuves ont diminué de 5,64% en avril. En ce qui concerne les voitures électriques Tesla, c'est une vraie chute, moins 60%. La marque américaine qui souffre de l'image sulfureuse de son patron Elon Musk. Et puis dernière ligne droite pour la Ligue 1, plus que 3 journées, alors le champion est déjà connu, le Paris Saint-Germain, mais le suspense reste entier pour les places européennes, notamment la Ligue des Champions. Cédric de Oliveira, la bagarre pour la qualification s'annonce acharnée.
6 équipes en 4 points et un sprint final complètement fou. À 3 journées de la fin du championnat, l'OM et Leonardo Balerdi n'ont toujours pas la garantie de finir sur le podium. Mais le défenseur argentin adore ce genre de scénario.
Maintenant, c'est le moment plus joli pour jouer, non ? Quand il y a cette pression, cette chose, j'aime trop jouer ce type de match.
Deuxième de Ligue 1 avec 58 points, l'OM est le mieux placé avant d'aller à Lille ce week-end. Troisième à seulement 2 points des Phocéens. Ce choc pourrait donc tout remettre en question. De toute manière, pour le nordiste Thomas Meunier, son équipe doit presque réaliser un sans faute.
On joue 2 matchs à domicile, on doit faire le nécessaire. Vraiment, c'est nous et nous-mêmes. Mais on doit faire le job. Franchement, c'est au minimum 7 sur 9 sur les 3 derniers matchs si on veut espérer aller directement en Champions League.
L'objectif, c'est donc de terminer sur le podium pour espérer jouer cette Ligue des Champions ou quatrième pour être barragiste. Place occupée pour l'instant par Monaco qui se rend à Saint-Etienne. De leur côté, après un début de saison compliqué, Lyon et Corentin Tolisso sont toujours dans la course.
Pour avoir cette régularité sur les derniers matchs, essayer de bien finir cette année. Et voilà, si on peut aller en Ligue des Champions, on pourra être fier de notre saison.
L'OL est 5e avec 54 points, tout comme Nice et Strasbourg, respectivement 6e et 7e. Quel que soit le club, le faux pas est donc exclu ce week-end pour continuer à rêver.
Et c'est Nice-Reims qui ouvrira le bal de la 32e journée ce vendredi. Coup d'envoi 18h45, temps universel. Puis rendez-vous dimanche pour le choc Lille-Marseille. Enfin, en Ligue Europa ce soir, Manchester United est allé s'imposer 3-0 sur la pelouse des Basques de l'Athletic Bilbao. Tandis que Tottenham l'a également remporté contre les Norvégiens de Bodø à domicile 3-1.
24 heures en France. Mathis Limano.
Vous êtes bien sur RFI, les minuit 11 à Paris. L'invité culture nous emmène aujourd'hui au Sénégal, à Saint-Louis, précisément joyau du Sénégal, niché entre le fleuve du même nom et l'Atlantique. Jusqu'à samedi se tient la 16e édition du Festival international du film documentaire. Une cinquantaine de pellicules venant de tout le continent sont diffusées gratuitement dans toute la ville. Et parmi les documentaires très attendus cette année, le film d'ouverture Afriki de Gaël Leroy. On y suit la naissance et le développement du mouvement citoyen Y en a marre au Sénégal au début des années 2010. Mais c'est aussi un documentaire qui interroge la façon dont les artistes, citoyens et activistes conçoivent leur engagement. Au micro de notre envoyé spécial à Saint-Louis, Gwendal Lavina, la réalisatrice d'Afriki, Gaël Leroy.
Bonjour Gaël Leroy.
Bonjour.
Comment est né ce projet ? Que vouliez-vous montrer ?
Je voulais montrer comment à partir d'un petit salon avec 7 personnes réunies autour d'un thé et une coupure d'électricité qui dure plus longtemps que d'habitude. Celle-là, elle a duré 20 heures d'affilée. Comment de ce petit salon naît un mouvement qui arrive ensuite à germer à travers tout le territoire. Et puis j'ai été très intéressée tout de suite par la façon dont ils étaient structurés, parce qu'en réalité, il y avait une organisation, une pensée qui était déjà très avancée.
Vous avez commencé à tourner en 2011, au début de Y en a marre. Vous avez tout de suite senti qu'il y avait matière, qu'il se passait quelque chose ?
Oui, comme j'ai senti que leur projet, il était au-delà. D'une certaine manière, ils ont été rattrapés par l'actualité politique. Ils n'avaient pas vocation au départ à descendre dans la rue et à vouloir renverser ou à participer à renverser ou à arrêter un pouvoir qui devenait autocratique, qui était prêt à modifier la constitution. Eux, ils ont vraiment voulu développer une nouvelle citoyenneté. Donc moi, d'une certaine manière, dès le départ, je me suis dit, bon, il y a cet épisode, on le vit, mais je vais avoir envie de continuer à filmer après. Ce qui va se passer après me semblait plus intéressant.
C'est au moment de la candidature d'Abdoulaye Wade pour un troisième mandat, c'est ça ?
Oui, il y a cette candidature où Abdoulaye Wade se présente malgré tout. Donc eux là reprennent leur premier job qui avait été un an avant cette histoire en réalité de commencer à sensibiliser les jeunes pour qu'ils aillent s'inscrire sur leur liste électorale. Et ils avaient tout de suite conceptualisé ce Das Fanana Al-Fanani Das qui était ma carte, mon arme. Ils avaient écrit des morceaux de rap là-dessus pour inciter les jeunes à dire voilà, votre arme. C'est ça, pour qu'on se préoccupe de notre gouvernance, de comment on est géré. Vous avez le droit de demander des comptes, vous devez en demander, mais pour ça, vous devez aller voter. Donc, ils ont continué ce travail contre Abdoulaye Wade. Et après, ils ont surtout essayé de former à travers tout le territoire sénégalais des jeunes, à savoir ce que c'était que la gouvernance territoriale, le droit foncier, tout un tas de concepts assez abscons au départ, mais ils étaient très forts pour les vulgariser auprès des populations.
C'est pour ça que le tournage s'est étalé sur plus de 10 ans. C'était nécessaire pour capturer les mutations, les évolutions du mouvement et du Sénégal aussi.
Exactement. Et ce mouvement, ensuite, a fait tache d'huile sur le continent. Donc, l'aventure, elle a continué. Et il y a eu toute cette dynamique panafricaine, également extrêmement intéressante. Et c'était très équilibré, parce que d'une certaine manière, chacun venait là avec son propre contexte, sa propre situation. Mais d'essayer de trouver ensemble comment avancer sur des principes communs, en pensant aussi qu'ensemble, ils étaient plus forts. Et en effet, quand il y a eu des arrestations dans d'autres pays que le Sénégal, il y a eu des coups de projecteur médiatiques très forts. Le fait qu'ils soient tous réunis.
Vous parlez du continent. Un élément qui apparaît tout au long du film, que ce soit au Sénégal, en RDC, au Burkina Faso, c'est le rapport de ces mouvements citoyens à la politique et aux politiques. Et il est là le vrai sujet du film ou pas ?
Oui, je pense que ça a été une école alternative de sciences politiques qui en a marre. Il y avait ce petit QG aux parcelles assainies d'où tout part. Et tous les mardis, c'était des soirées entières de discussions politiques, de vulgarisation. C'était une, ouais, vraiment une école alternative de sciences politiques. Et ça, c'était assez passionnant aussi.
Merci Gaëlle Leroy.
Merci beaucoup.
La 16e édition du Festival international du film documentaire de Saint-Louis, c'est jusqu'à ce samedi. Alors que les tensions restent vives entre Paris et Alger, les opposants au régime d'Abdelmajid Tebboune vivant en France se retrouvent pris pour cible par le pouvoir algérien. Menaces, cyberharcèlement, condamnation par contumace. Amélie Beaucourt a rencontré deux activistes politiques installés dans l'Hexagone. Ils racontent les outils de pression qu'utilise le régime et l'existence discrète qu'ils sont contraints de mener. Reportage.
Bonsoir à toutes et à tous.
Sur ses réseaux sociaux, l'activiste Choki Benzera critique le régime algérien à visage découvert. Mais une fois la caméra éteinte, il vit caché, chaque déplacement est millimétré.
Je fais très attention à sortir principalement en voiture, à ne pas prendre le même chemin, pas parfois même voilà, être incognito voilà, dans la rue. Je choisis les endroits là où je vais vraiment avec beaucoup de précautions, donc c'est plus une vie normale.
Le mois dernier, il apprend que son nom figure sur une liste de 30 opposants vivant en France sur lesquels Alger se renseigne. Un fonctionnaire, accusé d'espionnage et arrêté, aurait fait sortir leurs informations personnelles des bases de données administratives de l'État français. L'activiste algérien bénéficie du statut de réfugié politique, mais pour lui, ce n'est plus suffisant.
C'est plus une protection, disons, administrative que vraiment une protection pour mon intégrité physique à cause des pratiques du régime algérien, ses agents aussi sur le sol français. Donc maintenant, c'est plus possible de vivre normalement en étant opposant au régime algérien en France.
Même prudence chez Axel Belabassi, opposant lui aussi car il milite pour l'indépendance de la Kabylie, région du nord de l'Algérie.
Bien sûr, on change toujours nos habitudes, on change aussi le lieu de résidence parce que on est tout le temps surveillé, on est tout le temps suivi et on sait de quoi il est capable ce régime.
En juin 2024, alors qu'il vit en France depuis 2012, la police française le convoque et lui apprend qu'un mandat d'arrêt a été déposé contre lui.
J'ai découvert comme quoi j'étais accusé d'être derrière des incendies de la Kabylie de 2021 où il y avait à peu près 500 morts. Et le lynchage de Jamal Ben Smaïl, c'est un Algérien qui a été assassiné, lynché sur le territoire kabyle.
Des motifs fallacieux et absurdes selon lui qu'il ne prend pas au sérieux, mais qui révèlent la pression juridique qui pèse sur ses épaules.
J'ai été condamné à 14 reprises. En tout, il y a 203 années, plus de condamnations à mort.
Contrairement à Choki Benzera, la demande d'asile politique d'Axel Belabassi n'a pas encore été acceptée. Il pourrait donc être extradé si la justice française donnait son feu vert. La Cour d'appel de Paris devait rendre sa décision cette semaine, mais a finalement choisi, pour la deuxième fois, de la reporter.
Un reportage Amélie Beaucourt auprès d'activistes algériens installés en France. À Paris, il est minuit 18.
Le journal des Outre-mer.
Et 9h18 à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, le FLNKS, les indépendantistes, participeront-ils aux négociations proposées par Manuel Valls ? Réponse dans votre journal, Benoît Ferrand. Bonsoir Benoît.
Bonsoir. La question était au cœur ce jeudi d'une réunion du Bureau politique élargi, réunion à l'issue de laquelle aucun membre du Front de Libération Nationale Kanak Socialiste n'a désiré s'exprimer. Steven Nipat.
Un silence significatif alors que l'enjeu était central, décider de la participation ou non du front aux discussions politiques proposées par Manuel Valls. Le ministre des Outre-mer est en visite sur le territoire depuis mardi. Il souhaite rouvrir un cycle de négociations sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Face à lui, le FLNKS avance prudemment samedi dernier. Lors de sa convention à Wao, le front a réaffirmé son intention de défendre un accord d'émancipation avec l'indépendance comme cap, mais il attend toujours une nouvelle version du texte proposé par l'État. La réunion de ce jour, élargie à d'autres forces indépendantistes, s'annonçait tendue. C'est ce que m'indiquait tout à l'heure une source avant l'ouverture de cette réunion. Ce soir, l'absence de prise de parole laisse entière la question de la ligne que défendra le FLNKS dans les prochains jours. Aucun signal pour l'instant sur sa participation à discussion.
Interrogé mercredi soir par nos confrères de la Première, le ministre des Outre-mer a bien évidemment et quant à lui plaidé pour la participation des indépendantistes, car sans accord, dit-il, ce sera le chaos. Manuel Valls.
Il faut cet accord et que cet accord, comme nous l'avons dit, soit large et permette l'engagement de tous sur les questions économiques et sociales et sociétales de la Nouvelle-Calédonie.
Vous parliez tout à l'heure du corps électoral. Il y a une idée que certains vous prêtent en coulisses, celle de déclencher des élections provinciales plus tôt que prévu s'il n'y a pas d'accord. Est-ce que c'est une piste que vous envisagez?
Non, mais s'il n'y avait pas d'accord du tout, s'il y avait un blocage, si le Congrès national, l'Assemblée, le Sénat ne pouvaient pas se réunir pour accompagner ces réformes, cette question elle peut se poser, mais il ne faut pas me prêter des intentions. Les élections provinciales sont prévues au mois de novembre, donc est-ce qu'elles doivent être avancées ou pas en cas de désaccord, je n'en sais rien, mais en tout état de cause, elles sont prévues là pour nous permettre précisément d'avancer et de permettre cet accord.
À quelques semaines du 177e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, plusieurs associations remettent sur la table le combat pour les réparations. Réparations auxquelles pourraient, pourquoi pas, participer, entre guillemets, les descendants des maîtres de 1848, maîtres indemnisés, eux et à l'époque, pour la perte de leurs esclaves. Indemnisation que leurs arrière-arrière-arrière-petits-enfants seraient invités à rembourser. Luc Reynette est membre fondateur du Comité international des peuples noirs. Il est au micro de la Première Guadeloupe.
Je rappelle d'ailleurs que dans la commission qui était mise en place pour ces problèmes donc d'indemnité par rapport à l'esclavage, certaines parties, dont Shelcher, souhaitaient que également ceux qui étaient esclavagisés bénéficient de réparations. Donc c'était déjà une question de justice à l'époque. Et nous pensons qu'aujourd'hui, on constate que notre société finalement se porte mal. Et il est important que demain nous puissions vivre ensemble, mais à condition qu'au préalable, il y ait des réparations. Donc on appelle ces personnes à rentrer en démarche, en négociation avec nous, et non pas justement en dialogue, hein, vraiment en négociation, parce que quelque part, je rappelle qu'en 1849, elles avaient négocié pied à pied et tête par tête, aussi bien en Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion, le prix du rachat de nos ancêtres. Aujourd'hui, on leur propose de se racheter eux-mêmes.
La Guyane, pour terminer, loin, très loin, au plus profond de la forêt guyanaise, une ancienne école de la bourgade de Sahul va être bientôt réhabilitée et transformée en maison de la randonnée, une infrastructure qui devrait, c'est l'objectif, booster la fréquentation de l'endroit. Jean-Paul Ferreira est le premier vice-président de la collectivité territoriale de la Guyane. Il est au micro de Jonathan Lario.
Il faut absolument pouvoir structurer au fur et à mesure, effectivement, donc cette filière, une vraie filière économique aujourd'hui que représentent ces randonnées en question, et en faire un véritable lieu, en tout cas, donc d'immersion par la suite dans la forêt donc de Sahul. Je rappelle également que pratiquement l'ensemble de la commune de Sahul donc est aujourd'hui donc est dans zone classée par rapport à l'église que nous avons ici donc à Sahul, et qu'à ce titre donc l'architecte des bâtiments de France a un droit de regard sur l'ensemble des bâtiments qui sont amenés à évoluer, à être réhabilités, reconstruits, etc. Et c'est le cas donc pour ce bâtiment en question, bâtiment sur lequel on doit absolument pouvoir travailler donc avec les bâtiments de France pour pouvoir faire en sorte effectivement que ce projet aboutisse dans les meilleurs délais, parce que c'est un produit touristique attendu également.
Fin de cette édition. Bonne soirée.
Benoît Ferrand pour le journal des Outre-mer. Bonne soirée Benoît, il est 22h24 en temps universel.
Le conseil santé avec Sumo Assurance.
Et on retrouve la sexologue de l'émission Noël Caillercy avec Caroline Paré pour parler répercussions des conflits sur la vie sexuelle.
Noël Kayersi, bonjour.
Bonjour à Caroline.
Vous êtes sexologue, sage-femme, onco-sexologue. On vous retrouve dans Priorité Santé tout à l'heure pour répondre à toutes les questions des auditrices, des auditeurs. Aujourd'hui, on va parler des répercussions, des conflits sur la vie sexuelle. Noël Kayersi, en fonction des couples, des histoires, ces désaccords peuvent avoir des conséquences très différentes. Par exemple, avoir une influence sur le désir.
Oui, tout à fait. Parce que effectivement, si on est dans un contexte relationnel conflictuel où on ne s'entend pas, on ne peut pas partager des choses, c'est sûr que cela va avoir un impact sur la sexualité.
Est-ce que dans certains cas, même ces disputes peuvent devenir de véritables tue-l'amour ?
Oui, ce sont des tue-l'amour parce que les personnes ne se rencontrent pas et qu'elles restent dans des positions où chacune veut avoir raison. Donc elles ne s'entendent pas. Il est important, lorsqu'il y a un conflit, de pouvoir prendre le temps de se poser et ne pas être dans une démarche de règlement de compte ou encore d'être dans le reproche.
Et à l'inverse, certains couples estiment qu'il peut y avoir une sexualité de la réconciliation.
Alors là, c'est quelque chose à éviter, je pense. Tout simplement parce que le problème n'est pas réglé. Donc il est juste mis sous le tapis, comme on dit, et il va ressurgir à différents moments de la relation et ça va se cristalliser avec le temps et le couple en lui-même va s'éloigner de façon très progressive.
Est-ce que vous avez des conseils, brièvement, ou des mises en garde qu'on va développer tout à l'heure dans l'émission ?
Déjà, le premier conseil, c'est de revenir sur une difficulté au moment où tout va bien. Lorsque la discussion ne peut pas avoir lieu, mieux vaut arrêter court à cette discussion, parce qu'on ne s'entend plus. Deuxième chose, il est certain qu'on ne va pas consulter à chaque fois qu'on a une difficulté dans le couple, ça n'a pas trop de sens. Mais pour autant, il faut éviter de faire intervenir un tiers qui va devenir, on va dire, l'arbitre. Nous avons tous des représentations et une relation par rapport au conflit qui est différente, même si c'est une meilleure ou un meilleur ami.
On va revenir sur toutes ces questions en direct tout à l'heure avec vous, Noël Kayersi. On rappelle le numéro WhatsApp de l'émission, 33 7 71 18 46 41. Priorité santé à retrouver à 9h10 et 1h10 temps universel et à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
Un rendez-vous est pris. Merci Caroline Paré. Ainsi se referme cette édition de 24h en France. Merci à Fabrice Viollet, à la réalisation, à la rédaction. En chef Loïc Buissière. Restez avec nous sur RFI dans maintenant un peu plus de 3 minutes. C'est le retour de l'actualité africaine avec Zéphirin Kouadio. Mais avant, on fait un tour à New York.
Le rendez-vous de Wall Street.
Pierre-Yves Dugas pour la bourse.
L'indice Dow Jones grimpe de 83 points et revient à 40 753. L'indice du Nasdaq décolle de 264 points. Et atteint 17 711. Les marchés d'actions sont tirés vers le haut par les résultats trimestriels meilleurs que prévus, annoncés par deux nouveaux géants de la technologie, Microsoft et Meta Platforms, la semaine dernière. Alphabet, la maison mère de Google, là encore, avait annoncé des performances trimestrielles supérieures aux anticipations. Microsoft et Meta Platforms sont optimistes sur la demande de services d'intelligence artificielle. Les deux géants comptent poursuivre leurs investissements massifs dans l'infrastructure nécessaire à ces services. Amazon, un autre leader du secteur, participe à la hausse aujourd'hui. Après la clôture, Amazon a rendu compte, là encore, de résultats supérieurs aux attentes. Eli Lilly voit son cours plonger de plus de 10%. La chaîne de drugstore et d'assurance maladie ne va plus couvrir le médicament contre l'obésité Zepbound fabriqué par Eli Lilly. Elle lui préfère le produit concurrent qui vient du laboratoire danois Novo Nordisk. On note également le recul de McDonald's. Le numéro 1 de la restauration affiche une baisse inattendue de son chiffre d'affaires trimestriel qui reflète les difficultés de budget des consommateurs les moins riches dans le monde entier. L'euro retombe à 1,1290 $. Le baril américain de pétrole reprend plus d'1% et termine à plus de $59. L'indice Dow Jones reprend 0,2%. Le Nasdaq s'offre 1,5%. C'est la 8e hausse consécutive pour Wall Street.
C'était Pierre-Yves Dugas pour la bourse. Merci de votre fidélité à Radio France Internationale.
Demain, sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amard.
Dans un futur pas si lointain, l'Europe est devenue quasiment inhabitable. L'Islande est le seul pays totalement épargné par les catastrophes et par dizaines de millions, les Européens tentent de le rejoindre. Islander, c'est une BD signée Karel Ferret pour le scénario et Corentin Rouge pour l'illustration.
Sur le Pont des Arts,
avec la compagnie Corsair,
du lundi au vendredi à 15h10 TU, sur RFI.
Un jour au village, Penaï Traoré.
Cette semaine, nous parlons de la chasse traditionnelle, une activité indispensable chez les Nzebi du Gabon. Plus qu'un simple moyen de se nourrir, la chasse est une pratique éducative et un moyen de cohésion sociale chez les Nzebi. Mais elle tend à disparaître.
Un jour au village, avec Penaï Traoré, tous les samedis à 13h10 TU sur RFI.